VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Au Sénégal, la Cour suprême a rejeté jeudi le pourvoi de l'opposant Karim Wade contre sa radiation des listes électorales.
Au Nigeria, le président du Sénat, Bukola Saraki, est candidat à l'élection primaire d'un parti d'opposition pour affronter son ancien allié, le président Muhammadu Buhari.
Au Gabon, ouverture hier à Libreville du procès de l'ex-ministre du pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, accusé de détournement de deniers publics.
Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar a approuvé hier l'accord de paix final avec le gouvernement de Salva Kiir.
Le président américain Donald Trump pourrait avoir promis au leader nord-coréen Kim Jong-un de signer une déclaration mettant fin à la guerre de Corée.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. Pour l'instant, en ce vendredi 31 août 2018, le journal.
Au Sénégal, la Cour suprême s'est déclarée incompétente pour statuer sur le rejet de l'inscription de l'opposant Karim Wade sur les listes électorales. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade est le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de février 2019. Plus tôt dans la journée, une autre juridiction, la Cour d'appel de Dakar, avait confirmé la condamnation à 5 ans de prison ferme pour escroquerie d'un autre ténor de l'opposition, le maire de Dakar, Khalifa Sall, un autre candidat déclaré à la présidence. Ses avocats comptent saisir eux aussi la Cour suprême. Pour faire le point sur ces deux développements, écoutons Saïdina Abagaï de Dakar.
Karim Wade ne pourra certainement pas briguer le vote des Sénégalais. Son ambition présidentielle se heurte pour le moment au rejet de son inscription sur les listes électorales, ce qui le rend automatiquement inéligible. La Cour suprême, qui était son dernier espoir, l'a débouté en se déclarant incompétente pour trancher cette affaire. Avant la Haute Cour de justice, Karim Wade avait saisi le tribunal d'instance hors classe de Dakar, qui s'était aussi déclaré incompétente. Avec ses verdicts en sa défaveur, Karim Wade vient d'épuiser ses recours juridiques. De leur côté, les autorités administratives invoquent sa condamnation en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Karim Wade avait alors écopé d'une peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende de 138 milliards de francs CFA. Gracié en 2016 par le président Macky Sall, il vit depuis lors au Qatar. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade devra trouver d'autres voies de recours pour espérer participer à la présidentielle de 2019. En plus de Karim Wade, le maire de Dakar, Khalifa Sall, s'éloigne de plus en plus de la présidentielle de 2019 après la confirmation de sa peine en première instance par la Cour d'appel de Dakar. Il devra purger 5 ans de prison ferme, payer une amende de 5 millions et verser à l'État des dommages et intérêts estimés à 1,830 milliards de francs CFA. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Au Nigeria, parlant toujours d'élections, le président du Sénat, qui a récemment quitté le parti présidentiel, s'est déclaré candidat à l'élection primaire du parti d'opposition qu'il a rejoint. Bukola Saraki veut remplacer son ancien allié, le président Muhammadu Buhari, en 2019. Abdourahmane Dia.
Le patron du Sénat nigérian a déclaré qu'il se présentait avec la ferme conviction qu'il a les capacités de faire ce qu'il faut pour assurer une croissance au Nigeria. M. Saraki est le troisième personnage de l'État. En quittant le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes APC, pour rejoindre l'opposition en juillet, cet ancien gouverneur avait montré ses ambitions présidentielles. Il y avait une hostilité ouverte entre M. Saraki et le président Muhammadu Buhari. Face à l'insécurité, les députés avaient même brandi la menace de destituer le président Buhari. De son côté, la présidence les accusait de bloquer de nombreux textes de loi. M. Saraki, qui a eu des ennuis avec la justice, n'a cessé de dénoncer une chasse aux sorcières. Il a été notamment accusé d'avoir menti sur sa déclaration de patrimoine. Plusieurs candidats de l'opposition devront toutefois s'affronter lors des primaires et c'est le vainqueur qui fera face au président sortant, Muhammadu Buhari, en 2019.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé hier d'un an le régime général de sanctions visant le Mali, ouvrant la voie à l'imposition de sanctions individuelles contre des responsables de groupes armés accusés de contrevenir à l'accord de paix de 2015. Le régime général de sanctions a été prolongé à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Au Mali, les progrès obtenus demeurent insuffisants et le temps des avertissements est terminé, a affirmé l'ambassadrice adjointe de la France à l'ONU, Anne Guéguen. Nous avons besoin de voir des progrès progrès de toutes les parties, a aussi souligné devant la presse son homologue britannique Jonathan Allen.
En République démocratique du Congo, le procès pour le meurtre des deux experts des Nations Unies s'est poursuivi hier avec la confrontation des versions de deux prévenus. La prochaine audience est fixée à lundi. Le point avec Raissa Girondin.
14 prévenus sur 26 étaient présents à l'audience devant le tribunal militaire de Kananga, principale ville du Kasaï. Constantin Tidimé Boulaboula, le chef du village où les deux experts ont été tués, a affirmé avoir vu le chef milicien Vincent Manga Kabasele les accompagner. Selon lui, quelques minutes après, un garçon du village lui a dit que les deux experts onusiens ont été tués sur l'ordre de Manga. Appelé à la barre à son tour, Vincent Manga a tout nié, affirmant qu'il ne connaissait pas le chef du village. La suédo-chilienne Zaida Catalan et l'américain Michael Sharp ont été tués le 12 mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur des fosses communes dans la province du Kasaï. Cette région diamantifère dans le centre de la RDC a connu des violences meurtrières entre septembre 2016 et mi-2017 après la mort d'un chef de la milice Kamuinansapu tué par les forces de sécurité.
Au Gabon, ouverture hier devant la Cour criminelle spéciale de Libreville du procès de l'ex-ministre du pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, en détention préventive depuis 19 mois pour détournement de deniers publics. Il est accusé d'avoir détourné quelques 5 milliards de francs CFA. En juin, le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avait jugé la détention préventive prolongée de M. Ngoubou arbitraire et demandé sa libération immédiate. La détention préventive n'est pas la règle et ne devrait plus être une pratique au Gabon, avait-il ajouté.
Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar a approuvé hier l'accord de paix final avec le gouvernement. Les deux parties s'engagent ainsi à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le plus jeune pays du monde. Précision d'Irénée Herman Ongbo.
Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ahmed Al-Dirdiri, des représentants des factions proches de Riek Machar ont paraphé le document. La signature finale aura lieu lors d'un sommet de l'IGAD, dont la date n'est pas précisée. Riek Machar avait refusé mardi de signer le texte en exigeant que les réserves de l'opposition y soient intégrées. Il a finalement changé d'avis suite à d'intenses négociations. Début août à Khartoum, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar ont conclu une déclaration prévoyant un cessez-le-feu permanent, un partage du pouvoir avec le retour de M. Machar pour occuper un des 5 postes de vice-président dans un gouvernement d'unité nationale.
En Libye, des centaines de migrants détenus dans un centre de rétention au sud de Tripoli ont été évacués mardi vers une autre prison après avoir été pris au piège de combat. Le point avec Morgane Guiriec.
Des affrontements entre milices ont eu lieu entre lundi et mercredi soir dans les banlieues sud de Tripoli, faisant au moins 27 morts et une centaine de blessés, selon le ministère libyen de la Santé. Dans un communiqué, le HCR a fait état d'affrontements à proximité immédiate du centre de détention d'Ain Zahra, où des centaines de réfugiés et de migrants risquaient d'être pris dans les hostilités. Quelques 300 migrants, principalement des Érythréens, Éthiopiens et Somaliens, ont été transférés au centre de détention d'Abou Salim, dans la capitale, un endroit relativement plus sûr, où des organisations internationales peuvent leur apporter une aide, selon le communiqué. Les milices rivales observaient jeudi une pause dans les combats après un accord de cessez-le-feu.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a fait savoir à son entourage qu'il était prêt à imposer des tarifs douaniers à l'équivalent de 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires dès que la période de consultation publique pour cette mesure expirera la semaine prochaine. C'est ce que rapporte l'agence Bloomberg que cite l'agence Reuters. La Maison-Blanche n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet. Les États-Unis et la Chine se sont déjà mutuellement imposés des tarifs douaniers à 50 milliards de dollars d'importation.
Les États-Unis et le Canada n'avaient toujours pas conclu d'accord hier soir sur la rénovation du traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA, mais les discussions reprennent ce matin, a indiqué la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, ici à Washington. Vendredi est la date butoir évoquée par le président Trump pour que le Canada rejoigne l'accord préliminaire conclu lundi entre Washington et Mexico.
États-Unis toujours, le président Trump pourrait avoir promis au leader nord-coréen Kim Jong-un de signer une déclaration mettant fin à la guerre de Corée, peu après leur sommet historique du 12 juin dernier à Singapour. C'est ce qu'affirme le média américain en ligne Vox, citant plusieurs sources proches des négociations. Monsieur Trump, ajoute-t-il, aurait par la suite précisé son offre en demandant à Pyongyang de démanteler d'abord une bonne partie de son arsenal nucléaire. Toujours selon Vox, c'est ce changement qui a causé un accroissement de la rhétorique hostile de la Corée du Nord. L'administration Trump n'a pas jusqu'ici commenté directement cette information.
À Détroit, dans le Michigan, un concert rendant hommage à la carrière de la reine de la soul, Aretha Franklin, a fait chavirer d'émotion des milliers de fans jeudi soir, à la veille des funérailles de la Queen of Soul. Plus de 40 artistes sont montés sur scène pour interpréter les plus grands morceaux de la légendaire chanteuse américaine, morte à 76 ans le 16 août des suites d'un cancer du pancréas à Détroit. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Monirakiza.
Le Royaume-Uni a annoncé un programme de 70 millions de livres sterling pour créer 100 000 emplois au Nigeria. La ministre d'État pour l'Afrique, Harriette Baldwin, a déclaré que ce programme permettra d'augmenter les revenus de 3 millions de personnes originaires des régions les plus pauvres du Nigeria. Propos tenus à l'occasion d'une rencontre commerciale dans le cadre de la visite du Premier ministre britannique Theresa May au Nigeria ce mercredi. Au cours de l'exercice 2017-2018, l'Éthiopie a attiré plus de 3,7 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. La Commission des investissements a toutefois précisé que le pays visait plutôt à attirer 4,6 milliards de dollars. Le manque de devises et les troubles observés dans certaines parties du pays ont contribué de manière négative à la réduction des entrées. Addis Abeba, pendant la même période, délivrait des licences d'investissement à 275 projets étrangers avec un capital combiné de plus de 5 milliards de dollars. Ces projets ont permis la création de 133 000 emplois dans les parcs industriels nouvellement construits et dans d'autres entreprises. L'Égypte et la Chine ont enregistré 7,5 milliards de dollars d'échanges commerciaux au cours des 7 premiers mois de 2018. Le volume correspond à une hausse de 24% des échanges commerciaux atteints en 2017. Les exportations chinoises vers l'Égypte se sont élevées à 6,5 milliards de dollars, en hausse de plus de 22%. Les exportations égyptiennes vers la Chine ont progressé de plus de 34%, atteignant ainsi 1 milliard de dollars.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu hier à Monaco.
De belles affiches en vue pour les joueurs africains. Très relevé, le groupe H opposera notamment la Juventus de Benarcia à Manchester United d'Eric Bailly. Dans la poule A, l'Atlético Madrid de Thomas Partey, le Borussia Dortmund d'Achraf Hakimi et Monaco d'Aoulou promettent aussi une lutte acharnée. À suivre aussi la poule B avec le Barça, Tottenham de Serge Aurier et l'Inter Milan de Kwadwo Asamoah et de Keita Baldé. Triple tenant du titre, le Real Madrid hérite d'un groupe G a priori abordable avec la Roma comme principal adversaire, tandis que le finaliste malheureux, Liverpool de Mohamed Salah, Sadio Mané et Naby Keïta sont logés dans le groupe C, relevé avec le Paris Saint-Germain, Naples de Kalidou Koulibaly et Goulam, ainsi que l'étoile rouge Belgrade de Ben Nabouhan.
Et ce n'est pas tout.
Dans le groupe F, on retrouve Manchester City de Mahrez avec Lyon de Bertrand Traoré et Offenheim d'un autre Algérien, Belfodil. À suivre aussi la poule D avec le choc entre les Marocains Harit et Mendil de Schalke 04 et Belanda de Galatasaray où évoluent aussi Fegouli et Badou Ndiaye. Le Porto de Brahimi, Aboubakar et Mariga composent aussi cette poule.
Le mercato se referme ce soir.
Ça bouge sur le marché des transferts. Karam Bodj s'est engagé avec le FC Nantes. Après 3 ans passés à Anderlecht, l'international sénégalais débarque en Loire-Atlantique sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Blessé 5 mois la saison passée, le défenseur central tentera de se relever à avec le FC Nantes pour retrouver sa place de taulier en sélection, lui qui ne figure pas dans la dernière liste publiée par le sélectionneur Aliou Cissé.
Lebo Motiba a lui signé à Strasbourg.
Avant-centre titulaire de Lille en deuxième partie de saison dernière et en ce début d'exercice, Lebo Motiba quitte le Nord, concurrencé notamment par Loïc Rémy. À 22 ans, l'international sud-africain rejoint Strasbourg. Il s'est engagé pour 5 ans en faveur du club alsacien pour un montant estimé à 4 millions d'euros.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La chancelière allemande Angela Merkel est au Ghana où elle est arrivée accompagnée d'investisseurs après un séjour à Dakar au Sénégal, première étape d'une tournée africaine qu'elle terminera au Nigeria. À noter que Madame Merkel s'était aussi rendue au Mali et au Niger en 2016. Joint par Abdourahman Dia, l'analyste sénégalais Ali Ba, qui a vécu 25 ans en Allemagne, nous explique pourquoi un tel regain d'intérêt de Berlin vis-à-vis de l'Afrique.
Bon, je crois que l'Allemagne, c'est la plus grande puissance économique de l'Europe qui se rend compte que le futur de ce monde se trouve en Afrique et que l'Allemagne est très en retard par rapport aux autres pays en Afrique. La France, l'Angleterre avaient immensément de colonies. En dehors de ça, il y a la Chine qui a fait une saignée en Afrique, parce qu'en Afrique, qui est très présente, qui finance immensément de projets. Et il y a les autres pays asiatiques aussi qui viennent. Il y a l'Inde, il y a le Pakistan. Et récemment, si on voit, il y a la Turquie qui est très présente aussi en Afrique. Et même les pays du Maghreb. Et l'Allemagne, qui est une puissance, s'est rendu compte que si elle ne réagit pas, ben, elle risque d'être surprise dans quelques années.
Angela Merkel avait effectué une première visite en Afrique en 2016, notamment au Mali et au Niger, où il était beaucoup question de sécurité et d'immigration. Mais cette fois, elle visite des pays où elle semble plutôt s'intéresser au volet économique, notamment le Sénégal, le Ghana et le Nigeria.
Oui, c'est ce qu'elle a annoncé. Elle a annoncé ça hier, que cette visite est purement économique. Elle est venue avec beaucoup d'investisseurs. Et ce qu'ils veulent, vraiment, ce que les Allemands veulent, c'est des marchés, des débouchés, des projets et vendre la destination de l'Allemagne, les produits allemands et les hommes d'affaires allemands. Et ça, cette visite, elle est purement économique cette fois-ci.
Un journaliste allemand a justement demandé au président sénégalais Macky Sall s'il préférait la coopération chinoise à celle des autres et la réponse du président sénégalais était que le Sénégal était ouvert à tout le monde. Est-ce que l'Allemagne, avec cette question, veut faire un peu comme la Chine ou elle a plutôt peur de la Chine?
L'Allemagne, d'une part, a peur de la Chine parce qu'elle se rend compte que la Chine, comme je vous ai dit, est en train de tout rafler en Afrique, mais l'Allemagne a besoin aussi d'être présent dans d'autres pays en dehors des pays européens, en dehors de ses partenaires traditionnels.
Et, mais justement, comment l'Afrique peut profiter de ce regain d'intérêt de l'Allemagne pour le continent?
Le premier point, je crois que c'est le volet formation. Les Allemands ont un système de formation extrêmement efficace, très productif. C'est le dualisme là entre l'étude et l'entreprise. Ce qui s'applique de plus en plus au Sénégal d'ailleurs. Sur un autre volet, il y a la qualité des produits allemands, la qualité du travail allemand. Je crois que si aujourd'hui il y a un côté aussi où l'Afrique doit copier sur l'Allemagne, c'est le côté rigueur, le côté organisateur, le côté professionnalisme, le côté travail.
C'était l'analyste Ali Ba. Il était joint à Dakar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nous vous le disions hier, des groupes armés centrafricains ont signé cette semaine à Khartoum une déclaration d'entente. Ces discussions se sont tenues sous l'égide de la Russie et du Soudan. Pour une réaction, Firmin Koya Weda a joint à Bangui Ange Maxime Kazagi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
Le gouvernement centrafricain n'a rien à voir dans cette démarche et n'en est surtout pas à l'initiative. Vous le savez, c'est une démarche dont nous avons déjà dit quand elle se préparait et qu'on nous la prêtait, que nous ne sommes pas ni à l'initiative ni à l'association de cette démarche qui est à l'initiative des gouvernements russes et soudanais. Cependant, quand nous entendons ou quand nous lisons les conclusions que tout le monde a lues de cette rencontre, nous disons que nous en prenons acte puisqu'elle parle de paix. Mais nous disons que nous souhaitons que toutes les démarches soient versées dans le cadre de l'initiative de l'Union africaine, tout simplement pour que ce soit une recherche de paix durable. comme eux d'ailleurs, vous l'avez lu dans leur conclusion, ils souhaitent aller à l'initiative africaine avec leur conclusion, c'est ce que nous leur suggérons. Et bien à partir de ce moment-là, puisque le gouvernement travaille déjà avec la communauté internationale de l'Union africaine à ce que nous allions avec ces groupes armés à l'Union africaine, à l'initiative, eh bien, à l'initiative, nous discuterons, nous pensons, vu leur démarche, que cela sera les dernières étapes afin que, enfin, notre pays revienne à une paix durable, à une paix en partage, à une paix réelle pour les Centrafricaines et les Centrafricains.
Pouvons-nous parler d'avancées depuis la mise en place de la feuille de route de l'Union africaine ?
Certainement qu'il y a des avancées. Nous sommes arrivés à un stade où, maintenant, les différentes parties s'accordent à faire le point, et en tout cas pour ce qui est de la partie des groupes armés, le point de leurs revendications, afin qu'elles soient soumises aux autorités centrafricaines. Je dois dire que, à écouter certains de ces responsables de groupes armés depuis quelque temps, nous entendons de plus en plus, je dirais, des sons concordants avec la volonté de paix. La question est, ces sons sont-ils sincères ?
Ange Maxime Kazaghi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement centrafricain.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En République du Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso, fils du président Denis Sassou Nguesso, est de plus en plus perçu comme potentiel candidat de la majorité à l'élection présidentielle de 2021. Sa fondation Perspective d'avenir lui permet de sillonner le pays en menant des actions humanitaires. Mais il affirme qu'il ne sera pas candidat.
Voici... Tout le monde le voyait en campagne électorale. Le chef de file de l'opposition, Pascal Tshisekedi-Mabiala, s'en était plaint à l'Assemblée nationale. Ce semblant de longueur d'avance sur les autres acteurs politiques dérange également au sein même du PCT, le parti au pouvoir, et à la majorité présidentielle. Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, rappelle à l'ordre tous les militants qui ont créé des initiatives citoyennes autour de Denis Christelle Sassou Nguesso.
Le secrétariat général du Parti Congolais du Travail ne s'est jamais rangé derrière cette initiative-là et nous demandons aux nôtres, à tous les niveaux, de se tenir en dehors de ce qui se passe, qui n'engage en rien le Parti Congolais du Travail. Ceux qui ont pris l'option de suivre ce chemin-là, bien, demain, ils répondront devant le parti.
Mais pour rassurer tout le monde, Denis Christelle Sassou Nguesso déclare nourrir aucune ambition pour la présidentielle de 2021. Il ne voit à cette place que l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso.
On ne peut pas parler de reculade parce que je n'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais candidat en 2021. Et pourquoi est-ce que je pense que le président Denis Sassou Nguesso est le meilleur candidat? C'est parce que lorsque vous regardez toute la classe politique congolaise aujourd'hui, je ne vois aucun homme politique qui a la capacité de pouvoir stabiliser ce pays et surtout de pouvoir permettre de continuer le développement économique, social et politique de notre pays.
Les relations que j'entretiens avec mon parti, le Parti Congolais du Travail, jusqu'à preuve du contraire, sont très bonnes. Mais vous savez, hein, il y a au sein du parti des gens qui m'apprécient et il y en a d'autres qui ne m'apprécient pas, mais la vie politique est ainsi faite et je peux vous assurer que je m'en accommode très bien.
Les observateurs de la politique congolaise ont aussi leur avis. Voici l'analyse du politologue Constant Ibarapeya.
De toute manière, il n'a jamais dit qu'il devait être candidat jusque-là. Ceux qui faisaient les initiatives en ce lieu et place n'ont jamais dit qu'il devait être candidat. Ils disaient que c'était une réflexion. Mais on connaît, nous sommes au Congo, on sait comment ces choses fonctionnent. Lorsque quelqu'un a des ambitions présidentielles ou au niveau de députation et autres, on voit comment multiplier ces gens des initiatives et son parti a pris position en indexant ceux qui vont le suivre dans cette aventure et pensent qu'il était de bon aloi, qu'il s'est un peu de reculer pour dire que je ne serai pas candidat.
La déclaration de Denis Christelle Sassou Nguesso devait contribuer à apaiser la tension au sein de la majorité présidentielle et à remettre de l'ordre au Parti Congolais du Travail. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Togo, tenue du 29 au 31 août de la 4e édition de la Foire des Droits, de la 4e édition de la Foire des Droits de la Femme au marché de Edjanoué à Lomé. Sur le site, les femmes, mais aussi les hommes, bénéficient de conseils juridiques, de consultations médicales, notamment le planning familial, et de tests de dépistage du sida et du cancer du col de l'utérus. Une audience foraine est également organisée pour la délivrance des actes de naissance et de nationalité. La foire aux droits de la femme, un reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
C'est l'esplanade du second plus grand marché de Lomé qui accueille l'édition 2018 de la foire aux droits de la femme. Le concept vise la promotion et la défense des droits humains, un événement qui lève le voile sur des cas de violence basés sur le genre. Au Togo, les femmes en union ont une prévalence de 91% de violences psychomorales, dont 41% de violences physiques, 34% de violences économiques et 33% de violences institutionnalisées.
La problématique des violences basées sur le genre au Togo reste une problématique préoccupante et majeure pour laquelle il faut des réponses courageuses. La question de la violence, elle s'inscrit aussi dans toute la problématique de l'égalité, de l'équité entre les genres.
Au marché de Hedranawé, pendant ces trois jours, les femmes ont la possibilité de se faire établir leur acte de naissance et certificat de nationalité à des coûts réduits. Le déficit de ces documents d'identité peut être l'une des causes des violences auxquelles les femmes sont exposées.
Des femmes commerçantes qui traversent nos différentes frontières pour aller faire leurs activités commerciales. Lorsque ces femmes-là n'ont pas l'acte de naissance, elles n'ont pas le certificat de nationalité, elles ont du mal à traverser les frontières et sont confrontées à différentes tracasseries au niveau de nos frontières. Là, des fois, c'est des violences physiques que ces femmes-là affrontent.
La foi aux droits de la femme ne se veut pas sexiste. Elle s'ouvre aussi aux hommes.
Je suis à la fois pour l'essence de mon neveu. Il est né au Niger. Il a la naissance du Niger. Mais il veut faire la nationalité. Là, on va faire un jugement subjectif pour lui, pour pouvoir faire sa nationalité.
Sur les questions sanitaires, une clinique mobile a été dépêchée sur les lieux. On y dispense des conseils en planning familial et on y pratique des tests de dépistage du VIH et du cancer du col de l'utérus. Lors des consultations juridiques, les problèmes recensés sont plus relatifs aux droits successoraux. Kay Lawson pour VOA Afrique, Lomé.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des maladies infantiles les plus mortelles en Afrique.
Selon l'OMS, en Afrique subsaharienne, un enfant sur 13 meurt avant l'âge de 5 ans des causes liées à la pneumonie, à la diarrhée, au paludisme et à la malnutrition. Dans ce contexte, le VIH-Sida est un facteur aggravant.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Jean-Fidèle Ilunga, coordonnateur de la stratégie de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant en RDC.
Nous écouterons aussi le professeur Madeleine Folke, chef du service de pédiatrie au Centre hospitalier universitaire de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.